Bonjour chers auditeurs de RLP, vous avez un nouveau rendez-vous avec l'histoire du Périgord et des Périgourdins, présenté par les membres de la Société historique et archéologique du Périgord.
La situation des Juifs en Périgord pendant l'occupation allemande, première partie.
Bonjour. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à la situation des Juifs en Périgord pendant l'occupation allemande. Il s'agit d'un thème qui initialement était prévu pour illustrer la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, mais il se trouve que le Covid-19 est passé par là, et qu'il a entraîné une parenthèse retardant l'enregistrement et la publication de cette émission, et donc on vous la présente un peu plus tard. Émission particulière dans la mesure où ce sera moi qui serai interviewé aujourd'hui, et j'ai donc demandé à Jean-François, collègue de RLP qui présente les tranches de vie, de bien vouloir me servir, tenir la place du monsieur loyal. Jean-François.
Michel, bonjour. Merci de me donner l'occasion de te poser quelques questions auxquelles tu vas répondre éloquemment. En tant que membre de la CHAP, tes recherches historiques sur la Dordogne pendant la Seconde Guerre mondiale t'ont amené à trouver des détails sur l'afflux des réfugiés venus du nord et du nord-est de la France qui sont venus chercher refuge dans notre département. Parmi ces réfugiés, il y avait plusieurs milliers d'Israélites. Est-ce que de gens de confession juive, est-ce que tu peux rappeler les circonstances de cet afflux d'une manière un peu plus détaillée que je ne le fais ?
Bien sûr. Alors, aussitôt la déclaration de guerre le 1er septembre 1939 a été mis en œuvre un plan d'évacuation des populations des départements d'Alsace, des deux départements d'Alsace et du département de la Moselle, c'est-à-dire des populations qui résidaient entre le Rhin et la ligne Maginot, parce qu'on avait imaginé que cette zone-là était très sensible et risquait d'être envahie. Le plan d'évacuation avait été élaboré le début dès 1935, mais il a été mis sur pied et bien précisé en 1938. Il est cependant resté secret, et par exemple, en Dordogne, dont on va voir que c'était un département d'accueil, seul le préfet et le général commandant la place de Périgueux étaient au courant des détails du plan. Le maire de Périgueux, fort engagé dans l'accueil des populations déplacées, n'était pas au courant avant le 1er septembre 1939. Ce plan prévoyait donc d'évacuer, c'était le terme, les habitants du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle vers des zones fort éloignées et considérées comme plus à l'abri, et c'était des départements du sud-ouest. Départements qui font maintenant partie de la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il y avait les trois départements du Limousin, Haute-Vienne, Corrèze et Creuse, la Dordogne, la Charente et le Lot-et-Garonne. Alors, pour ce qui concerne la Dordogne, c'était les évacués du Bas-Rhin qui étaient orientés vers la Dordogne, et tout particulièrement la ville de Strasbourg, les habitants de la ville de Strasbourg évacués venaient s'installer à Périgueux. Et ils venaient s'installer avec toutes les infrastructures administratives afférentes. Et par exemple, on trouve à Périgueux, presque en face du palais de justice, de l'autre côté de la place, on trouve une petite maison sur laquelle figure une plaque. Ici se tenait de telle date à telle date la mairie de Strasbourg. Mais quand on voit la maison, elle est bien petite pour accueillir tous les services de la mairie de Strasbourg, et donc il y avait aussi des bâtiments administratifs disséminés dans toute la ville pour la ville de Strasbourg. Il y a eu 229 000 personnes originaires du Bas-Rhin qui ont été ainsi transportées en Dordogne, le tout en moins de 3 semaines, par le train et dans des conditions très précaires, car les trains des évacués croisaient sur les mêmes lignes les trains des troupes françaises qui partaient au front. Et les trains militaires étaient prioritaires, les trains d'évacués allaient beaucoup plus lentement. Donc pour certains, il a fallu pratiquement une semaine pour venir de Strasbourg à Périgueux par le train. Chaque famille emportait 30 kilos de bagages, était censée emporter les vivres. Ça n'a pas toujours suffi. Alors parmi ces en gros 230 000 évacués, 10 000 personnes originaires de Strasbourg et du Bas-Rhin étaient de confession juive. Qu'il s'agisse de personnes juives de nationalité française ou bien de juifs étrangers qui, depuis la montée du nazisme, étaient venus se réfugier en France depuis les pays d'Europe centrale et s'étaient arrêtés à Strasbourg où il y avait de tradition et de longue date une grande communauté israélite. Donc, en septembre 1939, ce sont environ 10 000 personnes de confession juive qui arrivent à Périgueux, ville qui, auparavant, ne comptait, semble-t-il, qu'une quinzaine de personnes de confession juive.
Quelques mois plus tard, la défaite de la France est consommée, mais la France n'est pas occupée dans sa totalité. En effet, on sait que la moitié sud, dont faisait partie la Dordogne, va rester une zone libre, entre guillemets, qui sera administrée par le régime collaborationniste de Vichy. Quelle va être l'attitude de ce régime vis-à-vis des Juifs et en particulier vis-à-vis des réfugiés juifs de Dordogne.
Alors, on va voir comment s'est mise en place cette politique qui, avant d'être une politique de collaboration, a été une politique de l'État français, mais dont on va voir qu'avant même que le mot collaboration ait pu être prononcé, il y avait des mesures clairement orientées de manière défavorable vis-à-vis des populations de confession juive. Alors, en juin 40, la défaite de l'armée française et l'invasion entraînent la démission du gouvernement, la démission du président de la République. Et c'est alors que se présente l'homme providentiel, avec une cinquantaine de guillemets, le maréchal Pétain, qui, je le cite, « pour le salut de la France », instaure un nouveau régime dans lequel le mot « république » disparaît. La République française devient l'État français. L'État français change également de devise. Aux oubliettes « liberté, égalité, fraternité », maintenant c'est « travail, famille, patrie ». Et le tout avec un maréchal qui fait don de sa personne, qui fait don de sa personne à la France, j'oserais presque dire fille aînée de l'Église, mais qui surtout est quelqu'un qui est auréolé de son aura de vainqueur de Verdun, et une figure de vainqueur qui va certainement changer un peu le moral des Français qui viennent de subir une défaite qui n'était pas attendue. On remarquera quand même que le maréchal Pétain a autour de lui, dans son gouvernement, des généraux qui, pour certains, ont quand même, techniquement du moins, contribué à la défaite de juin 40. Mais ça, c'est une parenthèse. La France se trouve donc divisée en deux zones, puisque l'occupation par l'armée allemande ne va pas, dans un premier temps, affecter tout le territoire. Il y a donc une zone nord, avec tout le nord de la France au-dessus de la Loire, mais également toute la bande de la côte atlantique. Toute cette zone va être occupée par l'armée allemande. Alors pourquoi toute la côte atlantique? C'est parce que les Allemands vont y installer leur fameuse ligne de défense avec les bunkers destinés à prévenir toute tentative de débarquement. Mais donc cette zone est occupée, mais tout le sud de la France, au sud de la Loire, et à l'est de cette bande atlantique, va être une zone dite libre pour certains, dite non occupée pour d'autres, en remarquant cependant qu'il y a aussi dans le sud-est des zones d'occupation italienne, en particulier dans les Alpes. Donc la zone non occupée, mais l'ensemble de la France, est aussi en partie administrée par un gouvernement dont le maréchal Pétain est le chef de l'État. Il n'est pas chef du gouvernement, il y a un premier ministre, mais il est le chef de l'État, il a quand même la mainmise sur l'organisation de l'exécutif. Et le gouvernement va être installé à Vichy, qui devient la capitale de la zone non occupée, et la capitale, on dirait, par procuration de la France. Paris étant par contre occupé par l'armée allemande avec un gouverneur allemand qui est un militaire. Donc la zone nord reste administrée pour les lois par le régime de Vichy, mais sous contrôle et sous tutelle des Allemands. La zone sud et elle entièrement administrée par le régime de Vichy. Les deux sont séparés par une sorte de frontière interne à la France, qu'on appelle la ligne de démarcation, Et il faut remarquer que le département de la Dordogne était traversé dans sa partie ouest par la ligne de démarcation, qui passait également en Charente. Donc les populations de confession juive déplacées vont se retrouver dans une zone qui deviendra certainement moins sûre parce qu'il y a la proximité de la ligne de démarcation et une relative proximité aussi de la zone occupée par l'armée allemande. Donc, ce qui se passe aussi après la défaite, c'est en octobre 1940, l'entrevue connue sous le nom d'entrevue de Montoir, qui est un Montoir étant une gare située juste au nord de la Loire, une entrevue entre Pétain et Hitler, qui, pour le coup, en octobre 40, officialise le terme de collaboration, régime de collaboration. Mais il y a aussi une convention d'armistice, une convention d'armistice qui s'intéresse aux populations de l'Alsace-Lorraine évacuées, pour une raison simple, c'est que l'Allemagne, après sa victoire, a totalement annexé, réannexé les deux départements alsaciens et le département de la Moselle. Ça faisait partie, là encore, de la convention d'armistice. Il y a une zone occupée, mais il y a une zone annexée. Les deux départements d'Alsace et la Moselle sont totalement annexés, font partie du Reich allemand et sont soumis à la loi allemande. Avec une loi qui prévoit la conscription des jeunes gens dans la Wehrmacht et une loi qui prévoit aussi toutes les mesures anti-juives qui existaient en Allemagne depuis 1933 avec leur cortège de déportation, d'interdiction et de brimade. Mais néanmoins, il est intéressant de voir aussi que le régime de Vichy, pour la France et la zone dite libre, mais encore plus pour la zone occupée, le régime de Vichy va prendre des mesures tournées contre les populations de confession juive et des mesures qui, en fait, d'une certaine manière, constitue une sorte d'officialisation d'un antisémitisme qui était ancré dans certaines couches de la population française depuis déjà pas mal de temps, depuis la fin du XIXe siècle, depuis l'affaire Dreyfus. Mais antisémitisme qui s'était également beaucoup développé dans les années 30, comme en témoigne une affaire comme l'affaire Stavisky, par exemple. Et donc, des mesures anti-juives qui se renforcent aussi lorsque l'Allemagne et l'Italie passent à des régimes fascistes qui persécutent officiellement les juifs. Et donc, les mesures anti-juives de l'État français, elles vont être prises dès octobre 40. C'est vraiment contemporain du régime de collaboration. Et il y a une loi du 3 octobre 1940, dite « loi du premier statut des Juifs ». Cette loi prévoit que les Juifs, y compris de nationalité française, vont être exclus de nombreuses fonctions. Ils sont interdits de fonctions électives. Ils sont interdits ou beaucoup limités dans certaines professions comme l'enseignement, la magistrature, la haute fonction publique. Ou bien dans d'autres professions libérales en particulier, ils sont soumis à un numerus clausus. Et quand on dit profession libérale, les professions médicales et les avocats n'ont pas été les derniers à prononcer ce numerus clausus pour leur profession. On notera aussi que le 7 octobre 1940, c'est-à-dire juste après le statut des Juifs, il y a, dans le cas particulier de l'Algérie, une abolition qui est l'abolition du décret Crémieux. C'était un décret qui, après 1870, accordait aux Juifs d'Algérie, ils étaient nombreux à l'époque, beaucoup d'ailleurs d'origine alsacienne, le décret Crémieux en 1870 accordait la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Eh bien, ce décret est abrogé. Donc, dans l'Algérie, toujours française, et de statut rattaché à l'État français de Vichy, les Juifs n'ont plus la nationalité française. Alors, les mesures anti-juives vont se durcir en 1941, et en particulier avec la loi du 22 juillet 1941, qu'on dit loi du second statut des Juifs. Et là, cette loi organise des mesures économiques, et en particulier ce qu'on appelle l'arianisation des biens juifs. C'est-à-dire que les Juifs n'ont plus le droit, en particulier, de diriger ou de posséder des entreprises, et tous leurs biens économiques sont mis sous séquestre, placés sous administration de l'État français avec des administrateurs spéciaux qui sont nommés par le régime de Vichy et qui, pour beaucoup, vont devenir des gens qui vont organiser la spoliation des biens juifs et qui continueront à l'organiser lorsque l'armée allemande aura totalement envahi la France. Et on connaît le problème en particulier de la spoliation de certaines œuvres d'art qui va être faite avec l'accord du régime de Vichy et avec la complicité de certains de ses administrateurs. Je signalerai seulement que le second statut des Juifs prévoit aussi dans l'organisation administrative un rouage particulier de l'administration qui est le commissariat aux questions juives. Commissariat aux questions juives qui se trouve également doté d'une police aux questions juives qui va être à l'origine du recensement des personnes de confession juive. Qu'elle soit ou non de nationalité française, on commence par les étrangers, ensuite on passe aux Français, on les recense, on les fiche, et ensuite, à partir de 1943-1944, eh bien, ils seront déportés officiellement par les Allemands, mais les choses ont quand même été bien préparées.
Vous pourrez très prochainement écouter la suite de cette émission proposée par les membres de la CHAP, Société historique et archéologique du Périgord.